Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, théâtre de Jean Gilibert. Jean Gilibert, dans son théâtre, ne se contente pas d'explorer passionnément les fourvoiements de l'histoire de son siècle. Il cherche, plus encore peut-être, à rendre compte d'un autre phénomène, lui aussi moderne et non moins inquiétant, la démission des mots. Il n'est certes pas le premier à avoir diagnostiqué et ausculté en nous cette maladie du verbe. Artaud, dont il paraît être aujourd'hui l'un des rares à prolonger fidèlement la quête, avait frayé avant lui de chemins de ronces empoisonnées et s'y était cruellement déchiré. Lui-même pense qu'il est sans doute trop tard pour tenter de guérir l'humanité du cancer langagier qui la ronge et la paralyse, la réduisant peu à peu à ce grand corps frappé d'aphasie baveuse et bavarde que l'on sait, à mesure que prolifère sa rage de communiquer pour ne rien dire. Jean Gilibert est né le 14 janvier 1925 à Paris. Sorti du Conservatoire de Paris en 1945, Jean Gilibert assiste en 1947 à la conférence d'Antonin Artaud au Théâtre du Vieux Colombier à Paris, qui a une influence décisive sur son parcours, placé sous le signe de l'exploration de la folie et du théâtre. C'est un homme de théâtre complet, acteur, auteur, adaptateur, traducteur, metteur en scène. Une partie de sa carrière a été consacrée à la psychanalyse. En tant que comédien, on citera entre autres 1959, Tête d'or, de Paul Claudel. Mise en scène, Jean-Louis Barrault, à l'Odéon. En tant que metteur en scène, on citera 1962, L'idiot, de Fiodor Dostoïevski. 1967, Phèdre, de Racine. 1971, Le songe d'une nuit d'été, de William Shakespeare. Il est mort le 31 octobre 2014, à Bourg-la-Reine. L'action et le lieu. Une scène de théâtre dans la salle des fêtes de la maison de retraite de Pont-aux-Dames, avec un vieil acteur de 83 ans, auteur de la pièce « L'armée céleste » que l'on est en train de monter. La folie à Pont-aux-Dames, c'est cela. Sortons de notre retraite de vieux comédien. Retrouvons la folie de jouer. Dimanche, le grand jour. Cette folie, ma pièce, l'armée céleste, dit au trompeur, dimanche, ce sera le feu à la baraque, l'attentat, dimanche, le jour de repos du Seigneur, l'attentat, ici, dans cette salle, et puis, nous, tous qui ne servons plus de Dieu, le vrai, celui du théâtre. Ah, nous n'étions que de vieux acteurs, dignes et solennels, dépendants de notre seul passé de planche, de vertige et d'illusion. Mais le voilà, le vrai vertige. Dimanche, l'armée céleste, des anges exterminateurs, Roméo et Juliette qui se mettent à tout massacrer, une fois morts. À la ligne de démarcation, mesdames, messieurs, on passe la ligne. Mesdames, messieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur de représenter devant vous est deux, et cela saute, et nous avec, des morts. On ne sait pas qui, pourvu que j'y sois. Jadis, nous étions morts. Morts pour la France, mais sur une scène. La scène du monde, de l'amour et de la guerre. Roméo, je me souviens de ta douleur. Quand je jouais, je m'asseyais dans cet oubli, pour mieux être là, pour mieux jouer. L'oubli. Nous sommes en 1942, en pleine occupation allemande. Vaincu désespérément. J'ai 80 ans. Verdun, c'est très loin. arrêtez de chanter en mesure les cheleux au pas cadencé, à coups de bottes. On dirait des spectres qui se hâtent. Je vais les réveiller, les morts de Verdun. Oui, résister au découragement. Un vieux cabot, moi, le dernier souffle. Expire, bonté du mal. Ah, c'est le brouillard dans ma tête. Des jets de sang, enflammés. Le manuscrit de ma pièce pourra flamber avec les fous du meurtre. Au feu, au fou, comme à la forge, le festin des crimes. Moi, je ne prends pas la pause. J'ai mes petits acteurs, bien sûr des gosses. Je rêve, noir. Ma pièce, c'est du patronage. Mais elle peut rendre hémiplégique, aphasique, mes enfants de troupe. Ah, Roméo, ah, Juliette, ce ne sont plus des petits nuages, ni de la neige artificielle qui tombe des cimes sur une scène de hangar, comme au théâtre d'aujourd'hui. Oui, ma pièce, c'est encore un frisson de paysage. Le parc de Pont-aux-Dames, les grands arbres, leur frondaison altière. Tiens, c'est vrai, la ligne de démarcation coupe le parc en deux. On va répéter cela tout à l'heure. Qui veut la fin veut les moyens. L'essentiel n'est pas là, vieux fou. Mais où sont donc les enfants ? Le vieil acteur cherche, jette un œil dans les coulisses, secoue le rideau de scène, découvre enfin, tapis dans un coin, les deux enfants. Vous devez le savoir par cœur, maintenant votre texte. Mais vous pouvez jeter un coup d'œil sur le cahier. Vous dormiez ? Si vous rêviez encore, c'est moi qui aurais joué la pièce et fait l'empantomine. Allez, on reprend. On a enjambé le premier acte. Nous sommes à la scène de l'abbaye. Eh bien oui, Pont-aux-Dames, avant d'être une maison de retraite, était une abbaye à la fin du Moyen-Âge, pendant la guerre de Cent Ans. Jeanne d'Arc, et puis plus tard, la du Barry, la favorite de Louis XV, exilée, recluse, avant le coup coupé. Encore un instant, monsieur le bourreau. C'est de l'histoire tout cela, de l'âge, de l'histoire en condensé. Nous, c'est la fin de l'histoire. Bon, vous comprenez rien à ce que je dis ? Allons-y, n'oubliez pas qu'à la fin, vous devenez des anges et que vous devez tout tuer sur votre passage. On reprend. N'oubliez pas qu'avant ma pièce, on joue le Noël de Satan, la sarabande des coquelicots et le monde des statues. Elles durent un quart d'heure chacune, du vrai patronage. C'est de la fantaisie. Des amuse-gueules, tout juste pour mettre un appétit avant le chef-d'œuvre, l'armée céleste, drame en trois actes de Mario Virley. Vous savez, mes enfants, les Allemands, ils seront dans le public, les cheleux. Ils n'aiment pas beaucoup les arts, la musique surtout. La musique, ça aide et ça camoufle. On ne leur dira pas que Jessica est juive. Comment, Aldo ? Roméo, il faut le prendre par en dessous, creuser le rôle. Remue les couches de terre différentes, par en dessous, en strates. C'est comme ça que je l'ai joué, moi. C'est cela, des ruses de gros malins, comme à la foire. Le truc, c'est aussi le miracle. Pas de miracle sans truc. Lève-toi et marche. C'est ce que tu dis à ta parole, quand tu dois la mettre debout, en la crachant de l'orifice du cratère, de ta bouche. C'est cela le miracle. Il n'y a rien. Le volcan est éteint, et tout d'un coup, il crache. C'est comme le cratère. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.